OK, on va commencer notre 95e leçon de notre série sur la théologie systématique. Ce soir, nous allons voir la doctrine de la conversion. Alors, la doctrine de la conversion se distingue de celle de la régénération et aussi de celle de l'appel irrésistible. Maintenant, comment? La régénération, c'est un acte de Dieu dans lequel l'homme est entièrement et absolument passif. Tandis que la conversion, c'est un acte de Dieu et des hommes agissant sous l'influence de la grâce. Donc, il y a un aspect dans la conversion, il y a un aspect passif et il y a aussi un aspect actif. L'aspect passif, 1 Pierre 2:25, « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » L'aspect actif, Actes 11, verset 21, « La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. » Alors, si on fait la distinction entre la régénération, la conversion et l'appel efficace, régénération, un acte de Dieu, dans lequel l'homme est entièrement et absolument passif. La conversion, un acte de Dieu et des hommes, agissant sous l'influence de la grâce. Tandis que la vocation efficace, c'est l'appel, tandis que la conversion, c'est la réponse à l'appel. La conversion, on va commencer, le premier point qu'on va regarder, c'est sa nature. Qu'est-ce que c'est? Alors, on va commencer, comme est la coutume de John Gill, il commence toujours par ce que c'est pas. Alors, ce que la conversion n'est pas une réforme extérieure de la vie et des mœurs. Par exemple, on voit des personnes, des fois, qui réussissent à arrêter de boire, à arrêter de se droguer. Ça n'a rien à voir avec une conversion. La conversion, ce n'est pas non plus une adhésion à une confession de foi. Ça pourrait arriver que quelqu'un soit un adhérent d'une église locale et qu'il regarde la confession de foi intellectuellement et qu'il y adhère. Alors, la conversion n'est pas une adhésion à une confession de foi. Alors, la confession de foi, par exemple, si on a la confession de foi 1689 de Londres, ça ne veut pas dire que si quelqu'un viendrait ici et qu'il lirait ça et qu'il serait d'accord, que ça fait automatiquement de lui une personne convertie. La conversion n'est pas non plus un retour vers Dieu des rétrogrades. Alors, souvent, on va utiliser le terme rétrograde pour parler de quelqu'un qui est venu au Seigneur et qui a eu une chute dans sa vie et qui, éventuellement, revient dans l'église locale ou revient au Seigneur. Alors, c'est pas ça qu'on appelle la conversion. Maintenant qu'on a vu que ce que ce n'était pas, on va regarder maintenant ce qu'est la conversion. La conversion, c'est un authentique, vrai et interne travail de Dieu sur l'âme. Elle amène le sens du péché et la compréhension de la colère de Dieu le concernant, sa gravité, ses conséquences, une détresse, une douleur et une humiliation. Elle amène aussi le réconfort en Christ et par Christ. Alors, qu'est-ce qu'elle produit? Elle produit un cœur se tournant vers Dieu. Donc, toutes les parties de l'être se tournent vers Dieu. Les pensées, les désirs, les affections, la volonté, l'esprit. Non seulement le cœur se tourne vers Dieu, mais il se tourne aussi vers sa parole, vers son adoration et vers ses ordonnances. Alors, la conversion, c'est aussi, elle produit aussi un détournement des ténèbres vers la lumière. Acte 26, versets 17 et 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu et pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Donc, un cœur qui se tourne vers Dieu et vers sa parole, aussi un détournement des ténèbres vers la lumière. Troisième chose qu'elle produit, la conversion, c'est un passage de la puissance de Satan vers Dieu. Quatrième chose qu'elle produit, un détournement des idoles vers Dieu. Et la cinquième chose qu'elle produit, un abandon de sa justice propre à la justice imputée de Jésus-Christ. Alors, une personne comprend que ce n'est pas la somme des bonnes actions qu'elle a fait dans sa vie qui a pour lieu de permettre qu'elle soit réconciliée avec Dieu. La sixième chose qu'elle produit, c'est un homme qui se tourne activement vers le Seigneur. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. « Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. » Vous, ça est en train de dire que les Juifs, à l'époque, quand ils lisaient Moïse, ils ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. Mais quand ils se sont convertis, à un moment donné, oups, tu m'as compris. Deuxième point qu'on va regarder, la conversion, c'est cause. Alors, la cause efficiente, on sait que l'homme n'a ni la force, ni la puissance, ni la volonté de se convertir. Zacharie, chapitre 4, verset 6. Alors, il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Jean 6, verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Jean 1, versets 12 et 13, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Alors, on voit vraiment que la cause efficiente, ce n'est pas l'homme qui a le pouvoir, ni la force, ni la volonté de se convertir. Romains 9, verset 16, « Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Alors, les personnes pourraient se poser la question, si l'homme n'a ni la force, ni la puissance, ni la volonté de se convertir, pourquoi alors les Écritures donnent l'ordre de se convertir? Alors, les réponses, c'est pour démontrer sa nécessité absolue. Alors, l'homme, il faut qu'il se rende compte d'abord que ce n'est pas par sa volonté qu'il peut venir et recevoir le Seigneur. Il faut qu'il se rende compte qu'il est démuni, qu'il est impotent, qu'il est impuissant, et qu'il n'a qu'un seul recours, c'est celui de se tourner vers Dieu et d'implorer sa miséricorde. Et c'est aussi pour faire réaliser qu'ils sont impotents de façon absolue. Donc, l'impotence, c'est l'incapacité à faire une chose par nous-mêmes. Quand quelqu'un est impotent, il ne peut pas le faire. Comment est-ce qu'il voudrait? Il ne peut pas. Il ne peut pas vouloir non plus parce que la Bible dit qu'il ne peut ni ne veut. Alors, uniquement Dieu peut amener l'homme à la conversion. Matthieu, chapitre 23, verset 37. « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Et vous ne l'avez pas voulu. » Alors, on commence la cause efficiente, on sait que c'est Dieu de façon absolue, alors que l'homme a l'incapacité de le faire par lui-même. La cause initiante, on pourrait dire, moving cause, qu'ils disent en anglais, alors vraiment, la cause initiante, c'est l'amour, la grâce souveraine de Dieu et son bon plaisir et sa miséricorde. Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 10. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, à l'intérieur des versets, on a vu l'amour, la grâce souveraine de Dieu, son bon plaisir et sa miséricorde. Maintenant, la cause instrumentale. Quel instrument le Seigneur se sert pour amener une âme à la conversion? Parfois, il le fait de façon directe. Par exemple, Paul. Quand Paul il se promenait sur le chemin de Damas, Dieu a permis qu'il tombe à terre. Et c'est Jésus lui-même qui est intervenu de façon directe dans sa vie. Mais en général, le Seigneur se sert plutôt de sa parole et de la prédication. Romains 3, verset 20. « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Romains, chapitre 10, verset 17. « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Galates, chapitre 3, verset 2. « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? » Alors, on sait très bien que c'est par la prédication de la foi. La conversion, quatrième point qu'on va regarder, c'est ses sujets. Alors, on sait que les sujets de la conversion, ce sont les élus de Dieu et les rachetés par Christ. Il y aurait une multitude de versets qu'on pourrait citer. On va le voir Zacharie, chapitre 10, verset 8. « Je les sifflerai et je les rassemblerai, car je les rachète, et ils multiplieront comme ils multipliaient. » Alors, la leçon ce soir est courte. Quelles sont les applications qu'on peut faire à partir du texte d'aujourd'hui, la leçon d'aujourd'hui? Je pense qu'une des premières, c'est très certainement de rendre grâce à Dieu pour sa part de notre conversion, qui est la part la plus active, qui est la part qu'il travaille. Quand le Seigneur convertit une âme, il le fait lui-même. Alors, c'est quelqu'un qui ne comprend pas que le salut est une œuvre de Dieu, la conversion est une œuvre de Dieu. À ce moment-là, il fait dire à la Bible des choses qu'elle ne dit pas en disant que tu peux perdre une telle chose. Si tu l'as vraiment reçue, tu ne peux pas la perdre. Deuxième application, demandons à Dieu la grâce que notre conversion soit éclatante et qu'elle rende gloire, qu'elle lui rende gloire. Faisons tous nos efforts pour participer activement, volontairement, avec détermination et constance à notre sanctification. Troisième application, utilisons tous les moyens de grâce à notre disposition pour la stimuler, l'activer et la fortifier. Alors, c'est sûr qu'on a un rôle à jouer. Dieu fait la plus grande part, mais il nous demande quand même de participer à notre salut. Que notre grand Dieu soit éternellement exalté, loué et adoré. Amen.